Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0, un podcast propulsé par Groupe Lacoste. Je suis Simon Lemire, votre animateur de ce podcast. Je suis associé et responsable du développement des affaires chez Lacoste. Donc aujourd'hui, je reçois Thierry Marcoux de chez OZDA, donc il agit comme directeur du développement des affaires chez OZDA. On revient d'une semaine complètement extraordinaire à Hanover Messe. Donc j'ai partagé ce moment-là avec Thierry, mais aussi avec la délégation québécoise à Hanover Messe qui a eu lieu justement la semaine dernière en avril. Donc, Hanover Messe, c'est quoi? C'est la foire commerciale la plus grosse au monde qui touche les technologies, mais l'industrie manufacturière au sens large. Donc, assez extraordinaire comme expérience. Puis, on va en jaser aujourd'hui avec Thierry. On va faire un petit recap de qu'est-ce qu'on a vu en termes de technologie, qu'est-ce qui nous a surpris, qu'est-ce qui nous a marqué, puis qu'est-ce qu'on peut ramener ici au Québec pour aider nos entreprises industrielles manufacturières à adhérer à ce virage numérique-là. Donc, sur ce, je vous dis bonne écoute, bon podcast.
Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client.
Monsieur Thierry Marcoux, merci de participer à podcast Expérience 4.0.
Merci à toi. C'est un immense honneur d'être ici aujourd'hui avec toi, Simon.
Génial. Hey, on a vécu toute une semaine, hein, la semaine dernière.
Incroyable, j'en tremble encore.
Retour brutal à la réalité, en toute honnêteté, ça a été phénoménal la quantité d'innovations qu'on a vues, de choses et même des relations qu'on a tissées avec la délégation, là, ça a été assez extraordinaire. Puis on va en discuter aujourd'hui justement de ce qui nous a marqué dans l'industrie, qu'est-ce qui nous a marqué d'un point de vue innovation. Puis avant de sauter dans le vif du sujet, les gens qui m'écoutent vont dire « il dit toujours ça ». J'aime toujours présenter mon invité, j'aime toujours parler un peu de toi, qu'est-ce que tu fais chez OZDA, mais aussi qu'est-ce qui est OZDA. Donc Thierry Marcoux, tu agis comme directeur du développement des affaires chez OZDA quand même depuis un certain moment. Donc, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais exactement chez OZDA? Puis, c'est quoi ton rôle exactement?
Avec grand plaisir, Simon. Donc, Thierry Marcoux, ça fait 4 ans que je suis au développement des affaires chez OZDA. Et nous, on est une firme de développement logiciel sur mesure. Donc, on n'est pas la firme qui va développer des sites web, du marketing numérique, du SEO. Nous, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? On développe des logiciels complexes pour optimiser les processus d'affaires et les opérations de nos clients. Et principalement dans le domaine manufacturier, industriel, donc tout où il y a des besoins d'ingénierie et d'optimisation. Puis c'est ça, on est une compagnie, on est 75, on est établi ici à Montréal, on a un bureau en France, à Nantes, également un bureau à Londres. Et une particularité d'OZDA, on est un partenaire de solution pour Boston Dynamics avec le robot chien Spot. Mmh. Donc, dans le secteur manufacturier, c'est un domaine de prédilection pour faire la collecte de données automatisées. Plus tard dans le podcast, là, on aura l'opportunité d'en discuter parce que le robot chien Spot, on en a vu beaucoup, on l'a vu souvent. Donc, voilà.
Bon, on en a vu quand même quelques-uns à Hanover Messe, justement, des robots, mais même qui n'étaient pas nécessairement de Boston Dynamics, mais qui avaient été développés peut-être par d'autres. On en discutera davantage. Ça fait combien de temps que tu es chez OZDA?
Ça fait 4 ans maintenant que je suis chez OZDA, puis l'entreprise est en opération depuis 12 ans maintenant.
Génial. Ben merci encore Thierry de participer au podcast. Puis je trouve ça fascinant. Là, on a vécu une semaine extraordinaire. Puis là, qu'est-ce qui est drôle quand même là-dedans, c'est qu'on se connaissait pas tant que ça avant. Hein? On était, je pense qu'on s'est connus dans le groupe de Yule Industriel, entre autres, là, un groupe de réseautage dans le cadre d'un peu industriel au niveau des firmes de services et professionnels. Puis tu m'as lancé la balle, tu m'as dit « Simon, je pense que ça serait vraiment pertinent que tu participes autant pour Lacoste d'aller justement aller chercher une expertise là-bas, mais juste d'aller triper puis de voir qu'est-ce qui se fait en Allemagne ». Puis j'ai accepté, on a sauté pieds joints dans l'aventure, ça a été incroyable. Moi, je commencerais, on en a vu des affaires, puis aussi j'ai envie de remercier la délégation québécoise aussi pour l'opportunité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, en arrivant là-bas, mettons, la première journée de show, on a fait quelques visites de kiosques, là, je lance une question un peu at large, là, mais la première chose qui t'a marqué, qui t'a fait « wow ».
Premièrement, si je prends un pas de recul, avant de rentrer dans le vif du sujet, Hanover Messe, j'en avais entendu parler il y a plusieurs années, comme quoi c'était le plus gros show manufacturier innovant. Toutes les entreprises qui veulent faire une transformation numérique, prendre le virage, faire de l'IA, peu importe, c'était le show le plus gros au monde. Puis en 2020, j'étais supposé d'y aller avec, encore une fois, la délégation québécoise. Et il y a eu la COVID, il y a eu l'année 2020 qui a été annulée, 2021 qui était en remote. L'an passé, c'était une plus petite édition. Et cette année, c'était le grand retour d'Hanover Mess. Donc c'est pour ça que quand j'ai décidé d'y aller, j'ai dit à Simon, on y va ensemble, let's go. Puis j'ai pas été déçu, ça c'est sûr et certain. Pour mettre en contexte le monde, on arrive là-bas, c'est littéralement un aéroport avec plein de hangars qui sont les différentes salles d'exposition. Il y en a environ une vingtaine et chaque salle d'exposition, c'est environ 4-5 terrains de football minimum.
Minimum.
Ouais. Puis j'appelle ça, moi, l'opulence 4.0 parce ouais. que c'est dément, c'est trop, c'est 5 jours de show, tu peux même pas marcher, t'as difficilement l'opportunité de marcher toutes les hangars, toutes les salles de conférence et de voir toutes les booths en une semaine. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est facile de se perdre, c'est facile si t'as pas un plan de match de juste passer à travers les salles de conférence et ne rien voir. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné au début, c'est vraiment le scale, la grandeur, la grosseur également des booths.
Ah ouais, c'est fascinant, là. C'est fascinant.
C'est temporaire. C'est juste 5 jours, la foire commerciale, puis tu as des booths qui ont des restaurants, qui ont 2 étages, qui ont des ascenseurs, qui ont des salles privées de réunion. Il y a même des chaînes de production automatisées qui ont été assemblées. Tu as des warehouses avec des robots qui se promènent. Tu as les autos qui sont en train de se faire assembler. Honnêtement, le wow factor, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis dans une autre carrière, moi, j'ai fait plusieurs trade shows quand j'étais plus dans l'industrie de la mode. Ça serait pour un autre podcast.
Jadis.
Puis j'ai jamais vu cette envergure-là dans une foire commerciale. Le wow factor pour attirer l'attention des...
Fascinant. Tu l'as dit, tu as dit opulence 4.0. J'ai adoré ce mot-là aussi quand tu l'as dit autour de la table avec justement avec Olivier Lacquinte. On le salue là, de chez Talsom. Puis on discutait autour d'une bière en train de faire un petit debrief d'une journée. Puis justement, il a sorti un article là, dans le journal des affaires là, récemment. Puis il y a plusieurs points qu'on va discuter aujourd'hui. Mais le mot que tu as sorti autour de la table, opulence 4.0, ça nous a tous marqués. Puis c'est vrai que c'est ça.
Mm-hmm. C'est non, fascinant. 100%. C'est un mot aussi qui est galvaudé à plusieurs sauces. Avant, c'était tout relié à la valorisation des données en entreprise, l'automatisation. Maintenant, c'est plus au niveau de la transformation numérique. Mm-hmm. Mais tout ce qui est manufacturier, innovant, ces choses-là, c'est vraiment ça sur les stéroïdes là-bas.
Ouais,
donc, tous les nouveaux concepts, toutes les nouvelles techno, les nouvelles tendances, l'automatisation, les robots,
les objets connectés, là, t'sais, toutes les data puis les tableaux de bord qui parlent entre eux pour justement être dans le prédictif, même avec les algorithmes, qu'on va pouvoir en parler aussi. Je pense que vous êtes derrière aussi l'IA également. Puis sans mentionner, puis on va faire peut-être une petite blague là, à part, mais sans mentionner le party qui a eu lieu dans un kiosque, que j'ai jamais vécu ça dans ma vie aussi.
Bon point, mon Simon. Ça fait également partie de l'expérience, je veux dire. Chaque boot, honnêtement, se dépasse les uns contre les autres. Puis on pourrait le nommer, c'est le boot de Beckhoff, une compagnie que je ne connaissais pas avant d'aller à Hanover. C'est des appareils qui font haut de gamme, qui font de l'automatisation industrielle. Puis, ils ont lancé un pas pire party.
C'était un vrai party. Là. Les gens, 100%. Les gens qui aiment sortir, mettons, dans une boîte de nuit, mettons, faire un peu le party, mais c'était la même chose, mais dans un trade show, dans un kiosque, qui va être démonté après avec le jeu de lumière.
Exact.
Puis, honnêtement, c'était quelque chose. Ça faisait partie de l'expérience.
Il y avait les sacs de poubelle par-dessus les ordinateurs, par-dessus les... disons, c'était assez quelque chose. Mais vous voyez, on est dans un podcast au Québec, puis on parle de la compagnie, donc... mission réussie pour Beckhoff, ça c'est certain.
Mission réussie, puis tu mentionnes quand même des bons points, tu sais, c'est immense à Hanover Mess, il y a beaucoup de choses à voir et tout. Puis là, ben on va parler plus concret là, de certains points. La thématique à Hanover Mess était tout ce qui était environnement durable.
Ouais.
Donc sustainability en anglais, là, c'était affiché pas mal partout, puis je pense qu'il y avait justement cette thématique-là qui devait être au centre de l'attention. Tu sais, en quoi ça consiste l'environnement durable dans le domaine industriel manufacturier? Ben là, c'est large, oui, mais c'est toujours de faire plus avec moins, oui. Mais c'est tout ce qui est environnement circulaire, la décarbonisation, l'environnement durable, d'être plus vert possible dans les méthodes de fabrication, dans le comportement aussi de l'acheteur. Donc ça, on pourra en mentionner. Toi, ce côté-là, cette thématique-là au sens large, comment tu l'as perçu là-bas? Y a-tu des kiosques, y a-tu des entreprises qui t'ont allumé à ce niveau-là?
Certainement, c'est un super bon point. Je pense que, comme tu viens de le dire, le climat, puis c'est un enjeu important en ce moment. Puis chaque compagnie, chaque boot amenait une solution à ce problème. T'sais, puis des cas concrets, par exemple, je pourrais penser à Siemens, qui est une immense compagnie. Je ne pensais pas à quel point c'était gros. On a eu une visite privée là, avec la délégation québécoise. 100 milliards de chiffre d'affaires, c'est tout simplement immense. Puis, une de leurs solutions qu'ils font actuellement, c'est des solutions end-to-end avec du vertical farming. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très spectaculaire. Ils font des chaînes de production pour faire pousser, peu importe, des laitues ou les aliments. Puis, avec du computer vision, ils sont capables de filmer et de voir comment les plantes poussent et de tout dépendamment des données qu'ils récoltent, sont capables de modifier l'apport en nutriments, l'apport en eau. Donc, c'est toute une solution intégrée avec des dashboards en live. Donc, c'est fait pour optimiser la production, limiter les intrants.
Limiter le gaspillage aussi.
Éviter
là,
le gaspillage, tout à fait. Ils sont en partenariat avec 80 Acres Farm aux États-Unis. Donc, ils ont mis le projet en application. Là, c'est pas juste dans leur lab. Donc, ça, c'est un super bel exemple.
C'est un bon point. Puis ça, je fais une parenthèse sur Siemens, puis on revient après au côté, en anglais, sustainability, là, l'environnement durable. Mais Siemens aussi, le kiosque est fascinant. Là, tu rentres là-dedans, c'est pratiquement... C'est un plancher de production. Là,
certainement.
C'est incroyable.
Il faut prendre un rendez-vous. On a des guides. On avait des petits écouteurs avec un guide qui nous... c'était tellement cacophonique que des fois, il nous disait « OK, on a la chance d'aller dans cette portion-là. Venez avec moi. » Il y avait quasiment une petite perche avec un drapeau. Suivez-moi. Non,
c'est vrai. C'est immense.
C'est immense.
Puis la quantité de technologie qu'il y avait, puis le vertical farming, qui est justement un peu cette agriculture-là faite de façon verticale, qui est vraiment un peu, je pense, c'est le vers-là, il faut s'en aller, d'un point de vue espace, oui, mais aussi d'un point de vue environnement durable et limiter le gaspillage, puis de maximiser la productivité. Mais toutes les autres kiosques, du moins les autres zones d'innovation qu'il y avait, on avait beaucoup de robotique, on avait beaucoup de tableaux connectés, c'est, comme tu l'as mentionné, c'est toutes des innovations, puis c'est un VP chez Siemens qui nous avait mentionné, c'est tout en opération en ce moment. Donc, c'est pas juste des prototypes qui sont affichés. Je fais le parallèle des fois avec le salon de l'auto où on voit des prototypes de véhicules. Là, à ce moment-là, à Hanover Messe, tout ce qui était sur le plancher de Siemens, qui est la fine pointe de la technologie, est opérationnel dans une entreprise ou une autre. Ça, j'ai trouvé ça hallucinant.
C'est ça, je pense que la grande majorité, je pense qu'il y en a encore quelques-unes qui étaient dans leur lab, mais les détails là, m'échappent. Il y a tellement eu une surlôte d'informations durant cette semaine-là là, que, disons, ça avait été un petit peu dur à suivre. Mais clairement, Siemens, c'est un joueur qui s'est démarqué là, dans cette semaine-là. Il y a également toutes les technologies là, de réalité augmentée. Ouais. Ça a été un... Je sais que ça fait longtemps, par exemple, que la technologie elle a été amenée avec les HoloLens de Microsoft, puis dans le secteur industriel, l'adoption était plus ou moins là à cause de la technologie qui n'était pas là, mais j'ai eu la chance de la tester, puis on a parlé également avec des compagnies, avec des cas concrets. C'est vraiment une très, très bonne solution pour éviter le déplacement, faire la maintenance à distance, la formation des équipes. On met le casque sur les yeux, on est capable de communiquer avec quelqu'un qui est à distance puis de partager la vision, faire des actions en simultané avec des opérateurs qui sont dans un autre pays. Un cas concret, quand on a fait la visite de Phoenix Contact, ça également, là, j'espère qu'on va avoir le temps d'en parler plus tard.
Ah, définitivement.
Ils ont réussi à monter une chaîne de production 100% automatisée en 2 semaines aux États-Unis à l'aide des HoloLens. Puis habituellement, c'est un processus qui prend plusieurs mois. Il faut qu'ils amènent des ingénieurs d'Allemagne, qu'ils les envoient aux États-Unis dans ce cas-ci. Il faut qu'il y ait des frais de transport, il y a un coût à la planète là, à voyager comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est un cas concret qui prouve que la technologie aide à limiter les déplacements. C'est un petit peu de la décarbonisation là, au final.
Définitivement.
Puis, une solution éco-responsable.
On le touche directement au niveau de la thématique. Puis c'est vrai que ça, c'est impressionnant, ça, d'avoir monté une usine entièrement à distance.
Une chaîne de production.
Une chaîne de production. Une chaîne de production entièrement à distance, c'est bien dit, moi je me reprends. C'est assez, assez impressionnant.
Certainement, au lieu d'envoyer les ingénieurs puis qu'ils fassent les actions sur place, les ingénieurs restent à la maison avec leur famille, sont plus heureux, tu es capable de mieux retenir ta main-d'œuvre, le monde se connecte à distance. C'est juste des casques que tu ships. Clairement, avec l'impression 3D, là, je pense que ces deux systèmes, c'est une solution concrète, honnêtement, pour une solution durable là, au problème de transport avec toutes les émissions en gaz à effet de serre qui sont en lien avec ça. Donc, l'AR, ça, c'est un autre aspect que j'ai trouvé là, qui était très présent. Là.
Puis, peut-être que tu connais plus là-dedans. Là, tu sais, il y a les lunettes connectées, on vient de mentionner. Puis là, il y a aussi le casque de réalité augmentée. Ouais. Puis tu l'as même testé chez Microsoft, dans le kiosque de Microsoft, tu l'as testé.
Ça, c'est le HoloLens. Ça, c'est de la réalité augmentée.
Exact, exact. Avec, il y a aussi, je fais un clin d'œil aussi à DeepSight, ici, une entreprise québécoise, justement, qui développe le programme dans une lunette pour être capable de faire des manipulations à distance, là, pour aider et tout. Tu sais, cette différence-là, ayant testé le HoloLens avec Microsoft, est-ce que tu as considéré la technologie en pointe? Tu as vécu quand même encore une fois peut-être certains irritants ou est-ce que c'était facile l'utilisation? Comment l'adoption de cette technologie-là ayant testé?
C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, tout le monde me regardait, j'étais un petit peu stressé. Il y avait beaucoup de bruit autour de moi. C'est sûr que dans l'action, vu que je savais pas trop où regarder, puis c'était la première fois que je mettais le casque sur mes yeux, ça a été un petit peu difficile de l'adopter au début, puis c'était quand même des actions simples qu'on me demandait de faire. Mais je pense que rapidement, quand tu es habitué, puis tu as quand même un parcours assez prédéfini à accomplir, je pense que la technologie commence à être à point.
C'est intéressant, puis je pense que c'est pour ça, pour n'importe quoi. Tu changes de logiciel, tu dois t'adapter un peu à cette technologie-là. Il faut que tu l'apprivoises, si on veut. Fait que je pense que ça fait partie quand même de la courbe d'apprentissage, de porter un casque, puis de faire une action qui est complètement, tu sais, dans une réalité augmentée. Tu n'es pas dans un monde virtuel, donc faire la différence aussi avec le métavers, le metaverse aussi. Donc, tu n'es pas non plus dans un autre monde complètement. C'est juste que tu vois des actions dans une lentille. Donc, c'est vraiment une réalité qui est augmentée. Je pense que c'est quand même important de faire la différence, là. Intéressant, intéressant. Je reviens, je fais un pas de recul, je reviens encore dans le côté environnement durable. Tu as mentionné un bon point de justement être capable de limiter les déplacements. Je pense que ça aussi, c'est un côté qui va s'en venir de plus en plus important. Il y a une technologie que moi, je n'étais pas au courant. Les fameux acronymes là, qu'on connaît, là, on pourrait tous les nommer. Moi, j'étais habitué d'entendre le LMS comme un Learning Management System, donc une plateforme pour aider l'apprentissage puis la formation, etc. Mais là, à Hanover Mess, on mentionnait le Load Management System. Comment toi, tu l'as compris, ce fameux logiciel-là, sans être un expert? C'est juste que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant et assez impressionnant. Puis tu m'avais mentionné quelque chose de super cool par rapport à ça.
Oui, bien ça, c'est aussi une autre grosse tendance là, qu'on a vue là-bas, les Load Management System. C'est surtout en lien actuellement avec la crise énergétique qu'il y a en Europe à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis tout l'hiver qui ont passé, c'était extrêmement névralgique de bien gérer l'énergie. Donc, les LMS, c'est des systèmes pour mieux gérer l'énergie, la consommation, pour subvenir au pic de consommation. Donc, c'est sûr que c'est tout dépendamment de quel contexte, son utilisation, quelle application, dans quel domaine. Tu sais, tu as plusieurs LMS qui s'adaptent à plusieurs contextes, mais c'est chaque compagnie, que ce soit Microsoft pour bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables ou d'autres compagnies qui offraient leur LMS, c'est une tendance là, pour mieux gérer l'énergie, les data, les données, la consommation surtout, pour pallier au pic de consommation, pour pouvoir avoir une utilisation. ILO, c'est un très, très bon exemple, c'est au Québec.
Oui, c'est vrai.
Qui éduque un petit peu le consommateur à mieux gérer sa consommation d'énergie. Puis même ILO, ils ont mis de la gamification un peu pour inciter les gens, et c'est plus des rewards qu'ils donnent pour inciter les gens à consommer dans les basses périodes de pointe, exact.
Exact, ouais.
Mais encore une fois, je ne suis pas un expert des LMS, mais ça, c'est ma compréhension. Puis on voyait beaucoup en Europe. Ça, c'est une grosse tendance qu'on a vue, là, certainement.
Non, absolument. Puis tu sais, je fais du pouce là-dessus parce qu'il y a même le PLM, là, le Product Lifecycle Management System, là, qui est un autre acronyme que je vous ajoute à votre vocabulaire. Il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent ça parce que c'est quand même plus populaire que le Load Management. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai envie de dire quelque chose aussi en lien avec la cueillette des informations qu'une entreprise peut faire pour évaluer leur quantité énergétique dans une chaîne de production, par exemple. Puis on a visité, c'est une présentation, c'est un centre de recherche là-bas avec un Smart Factory, donc évidemment une usine, si on veut, connectée, qui était comme prototypée là, en miniature. Puis dans notre cas, tu sais, chez Lacoste, on est beaucoup derrière tout ce qui est gestion de la relation client, donc on est plus expert au niveau des opérations de revenus. Puis ça m'avait captivé parce qu'à un moment donné, ils montraient un CPQ, donc très de base, donc un CPQ qui a une Configure Price and Quote System, donc un outil pour de configuration de produits. Donc, l'acheteur, donc par exemple un acheteur, peu importe, veut acheter un camion. Il part de bord sur le CPQ puis il commence à construire son camion. Tu sais. Puis là, une fois que il a construit son camion, c'était de façon très simple. Là, la carrosserie, je la veux vert, je veux tel X de tire, puis je veux une remorque dessus de X nombre de pieds. Tu sais. Bon, ça c'est fait. Là, boum, ça envoie directement à notre usine qui est connectée. Puis là, ils commencent à fabriquer le camion de façon complètement automatisée. Donc, déjà là, c'était quand même assez flyé. Là. Si je prends un pas de recul ici au Québec, on a encore beaucoup des stations qui travaillent en silo, mais on s'en vient là. T'sais, tranquillement, on commence à automatiser les chaînes de production. Puis là, c'est de les connecter. Mais là, l'usine qui démontrait, elle était entièrement connectée, entièrement automatisée. Puis, toute la cueillette d'informations sur la quantité énergétique que ça prenait de construire le camion, on l'avait en temps réel, puis on était capable de dire, hey, on est capable de s'optimiser à X nombre de points, puis on a été capable justement de diminuer X nombre d'initiatives dans notre chaîne de production pour réduire justement l'émission de gaz à effet de serre dans X nombre de je ne suis pas un expert non plus, mais ça donnait certains KPI sur l'utilisation énergétique de la chaîne de production. Où est-ce que je veux m'en venir avec ça? C'était quand même assez poussé parce que tout était parfaitement connecté, mais c'était en mode miniature. Évidemment, c'est un centre de recherche. Mais là, je parlais avec Donald Provost de chez Inno. Puis lorsque je jasais de ça avec lui, j'étais comme, j'essaie de voir, nous, dans notre application, d'un point de vue comportement de l'acheteur. C'est bien beau de réduire de vouloir, nous, être encore plus durable dans notre chaîne de production, si je prends la place d'un manufacturier. Mais comment que je suis capable d'aiguiller le comportement de l'acheteur pour dire, hey, si tu fais tel choix, voici comment tu aides la planète. Voici comment tu réduis également ta consommation énergétique, puis tu aides à la décarbonisation, etc., etc. Puis là, de quelle façon ça peut être fait? Mais c'est quand que l'acheteur est pour acheter son camion, bien qu'automatiquement, en fonction de ta chaîne de production qui est capable de retirer la donnée avec un load management system, par exemple, bien, à ce moment-là, quand l'acheteur est capable d'avoir automatiquement un niveau de décarbonisation X en fonction de sa configuration de produit qu'il est en train de faire. Tu sais. Mm. On peut même pousser ça plus loin. Tu peux potentiellement, sans dire un rabais, mais tu peux potentiellement avoir un meilleur prix si tu réduis justement ta consommation énergétique dans cette chambre de production-là quand tu fais ton produit. Là, je vais très loin, mais ultimement, c'est même d'arriver avec, regarde, si tu achètes X, tu aide à réduire ça. Nous, on est gagnants, la planète est gagnante, puis ça, c'est, on n'a comme pas le choix d'y adhérer. Tu sais. Ouais. Fait que c'est comme une grosse parenthèse, mais c'est ce qui m'a fait réaliser à quel point tous ces systèmes connectés-là ont un rapport entre eux, puis je pense qu'on arrive là. On arrive à un point où les changements climatiques, puis l'environnement durable, puis la quantité de pollution qu'on fait au quotidien d'un point de vue même l'agriculture, là, qui est quand même un gros domaine qui pollue, puis avec le vertical farming, tu l'as bien mentionné, je pense que les entreprises n'ont pas le choix à un moment donné d'adhérer vers cette tendance-là, puis cette thématique-là qui est, je pense, cruciale en Europe, mais ici, elle est à prendre en considération.
C'est vraiment très, très bien dit, puis en effet, c'était super impressionnant là, de voir de façon miniature tout l'usinage et les plateformes qui sont vraiment intégrées, des end-to-end là, qu'on appelle.
Puis même, il y avait même un kiosque, puis là, le nom m'échappe, c'était Euro...
Ouais, SEW Eurodrive.
C'est ça, Eurodrive, je pense. Ouais. Là, quand tu rentres dans le kiosque, c'est une mini-usine, mais là, miniature. Ouais, pas mal à l'échelle humaine. Là.
Honnêtement, ça, c'était une des plus impressionnantes. Je pense que c'est le boot, qui, quand je parlais tantôt là, qu'il y avait un entrepôt tout à 100% automatisé avec des robots en temps réel, c'était SEW Eurodrive. Là.
C'est assez impressionnant. Tu voyais les petits camions, tu voyais les robots aller placer les boîtes, revenir. Puis on se le garde, mais même j'ai envie d'aller un peu plus loin quand on va aller dans Phoenix Contact après, lorsqu'on va avoir fait la visite. Ça va être intéressant parce qu'ils ont une grosse partie d'automatisation à ce niveau-là, puis de même d'interconnectivité au sens large. J'ai envie de parler de robots spot. J'ai envie de parler de robots, de chiens robots, hein, on va le dire, malgré pourquoi on dit chien, parce que ça pourrait être n'importe quelle bête. Mm-hmm. Mais on a vu du Boston Dynamics, évidemment, ils sont assez populaires. J'ai envie de t'entendre un peu là-dessus aussi, parce que chez OZDA, en effet, vous êtes derrière, tu l'as mentionné en intro. Qu'est-ce qui t'a surpris? Avec quoi tu repars en voyant peut-être certaines... J'ai que tu as posé des questions aussi en rapport avec les chiens robots.
Oui, avec grand plaisir. Puis je pense que souvent, le monde l'ont vu dans les médias sociaux, le fameux chien jaune. Mm-hmm. Il a vu peut-être même les robots humains de Boston Dynamics faire des backflips, là, des choses comme ça. Mais concrètement, le chien robot de Boston Dynamics, c'est le chien agile le plus polyvalent au niveau des déplacements. Ouais. Tu as plein de types de robots au monde. Tu sais, t'en as sur roue, t'as des drones. Mais la particularité de Spot, c'est qu'avec ses quatre pattes, il est capable de se déplacer dans des endroits qui sont dangereux pour l'humain. Donc, que ce soit des mines, des plateformes pétrolières, des endroits que c'est rocailleux, des choses comme ça. C'est la particularité de Spot. Et ultimement, c'est une plateforme pour collecter de la donnée. Que ce soit de la donnée photo, vidéo, des images thermiques, des capter le son, peu importe, c'est vraiment une plateforme pour capter de la donnée. Il y a deux cas principaux d'utilisation. Le cas numéro un, c'est quand la santé des travailleurs est à risque. Mmh. Donc, par exemple, dans les centrales nucléaires, dans les chantiers de construction, dans les plateformes pétrolières, les mines, quand c'est dangereux pour l'humain, on préfère déployer le robot pour aller capter de la donnée, faire l'inspection, de la maintenance préventive, aller voir, lire certains indicateurs sur les machines. Je pourrais vous dire quelques cas d'usage concrets par la suite. Donc ça, c'est le cas numéro un. Puis le cas numéro deux, c'est le besoin d'aller capter de la donnée qui est fiable. Parce que tout modèle d'intelligence artificielle ou tout système passe par de la qualité de la donnée à l'intrant. Et d'aller chercher de la donnée qui est fiable et constante, c'est un challenge. Et de là, justement, l'automatisation pour aller capter la donnée de façon automatisée. Nous, chez OZDA, on est un partenaire de solution. Donc, on fait toute la partie logiciel sur le robot, toute la partie software. Mm-hmm. Donc, si une compagnie, par exemple, veut optimiser certains de leurs processus avec le chien robot, au lieu d'acheter un chien qui coûte environ 150 000, le déballer de la boîte, figure out comment ça fonctionne, ils peuvent nous contacter, on fait une preuve de concept avec eux, on valide le besoin, on fait un petit projet de deux semaines, voir si y a un business case, on les aide là, à démystifier puis à comprendre comment ça fonctionne puis à monter le business case. Puis si c'est jamais c'est positif, bien on peut les aider à acheter le robot, former leurs équipes, réaliser le projet conjointement avec eux. Puis ça limite le risque et les frais de leur côté. Puis pour nous, ça fait quand même un an et demi là, qu'on développe dessus. Puis on a fait justement un projet cet hiver, à l'hiver 2023, avec le métro de Montréal. Peut-être que vous l'avez vu passer dans les nouvelles. On a fait un projet pour détecter les anomalies la nuit dans les tunnels. Donc, le robot se déplace de façon autonome la nuit. Il va détecter s'il y a des graffitis, des déchets, des itinérants ou peu importe dans les tunnels. Et donc, au lieu que ce soit un humain qui se déplace, qui fasse les rondes physiques, c'est le robot. Puis le matin, bon, ben l'opérateur, il va simplement aller voir le rapport du robot. Il va directement aux items que le robot il a flagué. Donc, ça l'optimise le travail des travailleurs, puis c'est beaucoup plus précis également. Puis avec toute la data qui est collectée, on peut faire beaucoup de choses avec les images. Par exemple, on peut faire la maintenance préventive sur les trains, sur les rails. Peut-être qu'on aurait pu... Je sais qu'il y a eu cette semaine une craque qui est apparue dans le plafond, sur la ligne verte. Donc, vu que le robot, à chaque nuit, par exemple, va capter les images, bien peut-être qu'on aurait pu voir la craque pas mal plus tôt et éviter d'autres problèmes. Donc...
C'était quand même assez fascinant, puis ça s'applique après dans plein de secteurs. Là. Au moment qu'on a un problème ou un enjeu qu'on essaye de venir régler en mode préventif, j'imagine que vous autres derrière pouvez programmer justement ce robot-là à faire une action quelconque. En fait, il n'y a pas de limite. Là.
Exact. Non, c'est, honnêtement, il n'y a vraiment aucune limite. Puis, tu sais, un autre cas d'usage, par exemple, c'est avec Ontario Power Generation en Ontario. Eux, ils déploient les chiens Spot pour aller faire les rondes d'inspection dans les centrales, dans la centrale nucléaire. Ça limite l'exposition aux radiations pour les travailleurs. Donc, c'est un gain au niveau de la santé et sécurité. Et ça permet de faire une maintenance préventive sur les machines, éviter qu'il y ait des bris ou ils ont même commencé à faire des protocoles de sécurité d'incendie avec le robot. Donc, si jamais il y a un incendie ou il y a un événement qui arrive, c'est le robot qui se déploie de façon autonome et non un humain qui va traiter le problème. Donc, ça, c'est un super beau cas. Il y a même Pomerleau ici au Québec qui l'utilise pour faire leur suivi de chantier en temps réel. Oh. Donc, le robot prend environ 5000 photos chaque semaine de leur chantier, tout le temps au même endroit, du même angle. Ça leur permet là, de faire le suivi en temps réel de leur chantier de construction. Donc, vous voyez une espèce de tendance commune dans ces projets-là. C'est tout le temps dangereux pour l'humain. Ça prend de la donnée répétitive qui est fiable. Dans ces cas-ci, c'est des données plus photos et vidéos. On peut mettre, par exemple, des lidars, le X7 de Trimble, rentrer dans les immeubles, faire des nuages de points. On peut linker ça, puis faire du BIM en temps réel, faire des jumeaux numériques. On peut pousser la machine très loin avec Spot. Puis on a vu beaucoup de chiens là, au Spot à Hanover Mess. Ouais. Puis il y a même d'autres compagnies,
Des chiens robots. Hein? Parce qu'il n'y avait pas grand chien dans le froid, mais il y avait des chiens robots.
Des chiens robots, exactement. Désolé.
Non, je te niaise. Mais justement, on en a vu quand même plusieurs. Je sais que tu as posé des questions. Est-ce que tu trouves que il y avait beaucoup d'entreprises qui sont derrière la programmation de ces chiens-là, où ils développent ta perception par rapport au marché? Est-ce qu'il y a comme il y en a beaucoup? Il y a quand même beaucoup à développer autour de ça?
Il y a trois types de partenaires. Tu as les partenaires qui développent les accessoires sur les robots, donc tous les différents sensors, les différents payload qu'on appelle, qu'on met sur les robots. Tu as également les partenaires d'intégration qui vont prendre les solutions, qui vont les intégrer dans l'écosystème, soit les connecter à un logiciel GMAO, par exemple, ou à SAP ou à d'autres types de logiciels comme ça pour des logiciels de maintenance. Et tu as des partenaires de software comme nous qui vont vraiment créer des logiciels, créer des programmes sur le chien pour le rendre autonome, pour qu'on puisse faire des missions et que par la suite, le chien puisse refaire les missions par lui-même sans qu'un humain doive interagir avec lui. J'ai pas vu beaucoup de partenaires de solutions. Là-bas, c'était plus des compagnies qui avaient un chien dans leur... qui avaient un chien robot, pardon, dans leur boot, un petit peu pour capter l'attention puis pour montrer que c'était possible. Mais... je me suis pas arrêté non plus à tous les kiosques qui avaient le chien robot. Puis il y en avait d'autres compagnies qui essayent de développer d'autres robots similaires au chien Spot.
Donc il y a un marché quand même. Je veux dire, on en a vu quand même quelques-uns, puis il y a encore beaucoup à développer, je pense, autour de ça.
La pénurie de main-d'œuvre. Ouais. La pénurie de main-d'œuvre, c'est extrêmement important. À un moment donné, ces robots-là sont faits pour. C'est pas pour remplacer l'humain, en fait. C'est pour remplacer l'humain, mais pour mettre l'humain dans des tâches à valeur ajoutée. Okay. Puis aller faire des rondes d'inspection dans une mine pour aller voir s'il y a des fuites ou aller capter, faire des rondes dans une usine pour voir s'il y a des fuites. C'est pas des travaux qui sont très valorisants. C'est des travaux qu'on peut facilement remplacer avec la technologie. Donc,
puis même le faire overnight, là, c'est pour ça des fois on pense à une cellule robotique en avant d'une presse ou d'une machine quelconque. C'est parce que le robot peut aussi travailler toute la nuit, puis steady, puis non-stop, sans pause, si on veut. Fait que faire ces rondes-là aussi overnight, puis d'aller regarder les anomalies quand les gens dorment ou quand on est sur un autre shift ou whatever, ben là, tu viens d'augmenter ta productivité et ton efficacité, puis tu viens de justement réduire une tâche redondante à non-valeur ajoutée qu'un être humain faisait avant. T'sais. Donc, il y a quand même plusieurs bénéfices.
Là. 100%, le robot, il n'est jamais malade, le robot ne prend pas la COVID, le robot n'a pas d'enfant, le robot, il n'y a pas de...
On pourrait toutes les nommer. Là. Fait que ça, c'est quand même assez fascinant. C'est vraiment, vraiment intéressant. On a parlé de ça au niveau de la robotique un petit peu quand même. J'ai vu, moi, personnellement, puis je te laisse ajouter un point, là, j'ai vu beaucoup de bras de robots. Tu sais, les cobots ou des cellules robotiques, j'en ai vu quand même pas mal. Je pense que pratiquement tous les kiosques avaient un bras de robot qui était en train de faire une tâche humaine, là, qui était manuelle, c'est redondante. J'ai trouvé ça fascinant quand même. Puis là, je fais le saut vers notre visite à Phoenix Contact. Parce que là, j'ai aussi un cas de robotisation vraiment intéressant aussi à mentionner. Fait que le jeudi de notre semaine, c'était le jeudi de notre semaine, on est allé visiter Phoenix Contact, belle entreprise qui est manufacturière justement de beaucoup de choses quand même. Ils sont aussi dans l'électronique, là, mais tout ce qui est un peu système PLC, etc. pour la machinerie. Grosse compagnie quand même de plusieurs milliards de dollars, c'est immense. Comment toi, tu as vécu ton expérience à la visite Phoenix Contact avant que j'enchaîne sur certains points de mon côté?
J'en ai beaucoup à dire. extrêmement impressionnant. L'ingénierie allemande, on en entend parler depuis la Première, la Deuxième Guerre mondiale, leur capacité de production, tout le secteur automobile. J'arrivais là-bas avec des grandes attentes, puis honnêtement, j'ai pas été déçu. Personnellement, moi, je suis plus de l'environnement software. C'est rare que j'ai l'occasion d'aller dans des usines, mm-hmm. mais là, j'ai pas été déçu. C'est très, très, très impressionnant.
C'est 100 000 produits hein, qu'ils ont.
Oui, 100 000 produits. Puis comme il disait, leur catalogue de produits de 100 000, c'est un peu un avantage puis un inconvénient. Mm-hmm. Tu sais, c'est...
Parce que plus que tu en as, plus que c'est tough à gérer aussi. Là,
certainement. T'sais. Puis tout gérer l'inventaire, tout ouais. ça. On pourra en parler tantôt là, de leur warehouse pour faire le pick and pack. Là, c'est tout automatisé. C'est vraiment impressionnant. Mais écoute, tu arrives là-bas, tu peux manger à terre. C'est tellement propre. Sont verticalement totalement intégrés. C'est eux autres qui produisent leurs propres vis, leurs propres boulons, leurs propres écrans. Ils ont vraiment développé une technologie propriétaire qui leur permet d'avoir un edge sur tout le reste de leurs compétiteurs. En parlant de compétiteurs, leur plus gros, c'est Siemens. Et en même temps, c'est leur plus gros client. C'est assez ironique quand ils nous ont dit ça. Ouais. Mais super belle visite. Écoute, on a été bien reçus. C'est des chaînes de production totalement automatisées à partir de la fabrication, comme j'ai dit tantôt, les vis, les écrous qui vont dans les machines, jusqu'à tout fabriquer les pièces.
Puis la boîte électronique.
Hein. Exactement, ils fabriquent littéralement tout. Ils ont 100 000 produits jusqu'à la partie warehouse. Ça, c'est impressionnant. C'est quasiment la grosseur d'un demi-terrain de football de 6 étages de haut. C'est une espèce de robot qui parcourt les allées, il va jusqu'à 80 km/h pour faire le pick and pack. Il n'y a aucun humain qui sait en temps réel où et quoi et où dans le warehouse.
Seul le robot le sait. Faut pas que ça pète, mettons.
Tout est dynamisé en temps réel pour savoir, okay, selon leur inventaire, la popularité des produits, les commandes à venir, tout est resynchronisé en temps réel. Le robot, il n'arrête jamais, il est tout le temps en train de chauffer les boîtes pour les amener plus en avant, si jamais c'est très populaire, plus en arrière. Il y a également une affaire, un de leurs produits qui s'appelle PLC Next. Ça, c'est très, très impressionnant. C'est de l'IIoT, donc de l'Industrial Internet of Things. Puis, c'est un espèce de système modulaire que les entreprises peuvent bâtir leurs applications manufacturières avec PLC Next. Puis, c'est quand même assez avancé. Là. Alexandre, le rep ici au Québec, m'en parlait. Une utilisation, par exemple, de leurs clients sont capables de tout être synchronisés avec plein de types de données différentes. Puis, par exemple, dans le Midwest aux États-Unis, leur manufacturing plant, ouais. leur centre de manufacture, ouais. sont reliés aux données météo. Donc, ils savent en temps réel s'il y a une tornade qui se dessine en dedans de quelques secondes, quelques minutes, sont capables d'ajuster la production, enclencher des processus de backup. Donc, tout est connecté avec plein de sources de données différentes. Écoute, ils me parlaient honnêtement de leur logiciel, même si moi je suis dans l'industrie, c'est quand même très puissant puis évolué.
Mais c'est assez impressionnant parce que, tu sais, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de tout ça? C'est que, tu sais, ça a été le PLC Next puis ce qu'ils ont fait avec, bon, comme le cas de figure avec les tornades puis justement au niveau du prédictif même, ouais. certaines. Ben, comment dire, certaines composantes qu'on n'a pas de contrôle, là, certains éléments qu'on n'a pas le contrôle. Mais tu sais, ça, c'est un cas de figure, mais de commencer à s'automatiser, de commencer à justement s'interconnecter, fait que le fameux IoT, comme tu mentionnais, je pense que les entreprises doivent commencer à le voir, puis c'est à votre sauce, tu sais, c'est en fonction de vos besoins. Fait que nous, ce qu'on retient de là, c'est que là, on est allé voir comme une multinationale incroyable. Eux, ils l'utilisent de cette façon-là avec tel produit, mais partir de ça, c'est comme un, je vais pas appeler ça le rêve américain, le rêve allemand. Mais, tu sais, c'est OK, waouh, c'est malade, mais comment moi je peux faire un premier petit pas puis commencer à adhérer justement à l'interconnectivité de ma chaîne de fabrication, tu sais, avec mon supply chain, avec justement mon contact client? Comment je peux commencer à connecter tout ça ensemble, avoir des tableaux de bord puis être potentiellement dans le prédictif, tu sais? Fait que c'est ça que je retiens. Je suis comme, c'est tellement fou, c'est tellement cool, mais pour ceux qui nous écoutent en ce moment, ceux ou celles qui nous écoutent, ben, tu sais, prenez ça, faire comme, OK, c'est complètement débile, mais à quelle sauce, moi, je peux le faire de façon réaliste là, mais au moins faire un premier pas vers ce virage-là numérique innovant 4.0, 5.0 à la style Hanover Mess, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve que j'ai envie de retenir un peu de ce que tu viens de mentionner, là. C'est
exact,
vrai que
on a vu, je pense, on a vu l'idéal, on a vu un petit peu les possibilités. T'sais, on sera pas de cachette, l'Europe, l'Allemagne est peut-être 10 ans en avant de nous autres, puis on a le vécu de nos yeux. Quand on revient ici, faut qu'on prenne les learnings, puis qu'on puisse transmettre ça aux entreprises d'ici.
Ouais,
je pense que c'était ça aussi l'objectif d'aller à Hanover Mess, c'était d'aller voir c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce qui se fait dans le monde, aller s'inspirer, se motiver. Moi, je suis revenu d'Allemagne, j'ai dit en entrée de jeu que je tremblais. Je tremble plus, là, mais je suis vraiment revenu avec une belle énergie. Puis
gagnant. Je veux dire, comme on a tellement appris, puis on a tellement vu d'affaires. Ouais. Puis un autre truc à Phoenix Contact, j'ai envie de mentionner quand même. Puis tu mentionnais, tu sais, on est arrivé dans le premier bloc de production où est-ce qu'ils fabriquent justement les vis là, en plastique, là, vraiment en plastique recyclé. Hein.
Exact.
Puis moi, ce qui m'avait surpris aussi, c'était qu'il y a des boîtes en plastique, là, Phoenix Contact, partout bien rangé. Comme tu disais, on pouvait manger à terre. Là. C'est propre, c'est sacoche partout dans l'usine. Puis ils ont leur propre boîte, Phoenix Contact en plastique, pour stocker leur propre stock. Quand ils shippent des produits, ils shippent dans des boîtes comme ça. Quand ils shippent du matériel ailleurs dans une autre usine, dans un autre plant, ils shippent via leur bac. Puis il y a des bacs là-dedans. Là, on parlait là, avec les personnes qui faisaient la visite là, de Phoenix, puis ils disaient, c'est nos propres bacs, puis c'est le même matériel, c'est la même composante de plastique qui est utilisée pour faire nos vis. Donc, il y a des boîtes là-dedans, ça fait 30 ans qu'on a, 35 ans qu'on a. Il y en a une qui brise, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la recycle, on l'utilise pour faire nos vis. Donc, il y a tout ce côté-là circulaire dans l'utilisation de leurs matériaux que j'ai trouvé ça hallucinant, puis c'est toujours bien rangé, puis c'est, on est propriétaire de nos propres accessoires puis nos propres composantes pour fabriquer. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, toute cette logistique-là. Puis c'est pas une entreprise, une PME, tu sais, qui sont capables. Tu sais, c'est quand même une multinationale à travers le monde qui voyage avec leur propre, je dirais, bac là, pour transporter les éléments. Fait que ça, j'ai trouvé ça comme assez incroyable d'un point de vue. Puis même leur recyclage. Tout est recyclé à l'interne. Il n'y a aucun gaspillage de matériel. Pratiquement aucun. J'ai pas envie de dire qu'il n'y en a aucun, là, mais on est très, 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 très fort au point de vue recyclage chez Phoenix Contact. Autre point, c'est au niveau des... je sais pas si tu as remarqué, mais au niveau des machines, ils fabriquent aussi leurs propres machines à l'interne. Donc, au niveau de la machinerie, le nombre de petites tâches que le robot prend, puis le nombre de petits éléments répétitifs qui se passent, puis là, tu vois les bras de robot partir, les courvoyeurs passer, puis là, la pièce se déplace d'un à l'autre, puis c'est une chaîne d'automatisation qui fait à peu près 20 pieds, puis le nombre de micro-tâches qui est faite, la complexité derrière.
Honnêtement, je pense qu'on aurait pu rester environ toute la journée à regarder une chaîne de production, chaque étape. Mm-hmm. C'est extrêmement impressionnant. Il y a du computer vision, ils sont capables de voir le fil, sont dans quel ordre. Il y a un petit robot qui va déprendre les fils, qui les met dans le bon ordre, qui retwist, qui les emballe, chaque détail est tellement précis. C'était vraiment impressionnant.
C'est vraiment cool. Ouais. Puis on parlait de robotique tout à l'heure, puis tu sais, les bras de robots, robots collaboratifs ou tout simplement un robot qui fait une tâche X. Moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, Phoenix Contact, c'est quand même quoi, à peu près 22 000 employés?
22 000 employés, 6 milliards de chiffre d'affaires.
Ah, quand même. Hein, c'est pas une maigre entreprise. Puis quand on est arrivé là, tu sais, c'est une ville. Tu sais, l'usine, là, le headquarters, si on veut, le siège social, c'est une ville. Puis tout le monde savait ce qu'il y avait à faire, puis même quand on marchait dans l'autre plant qui est plus l'électronique, les ingénieurs sont à leur poste de travail, puis font le travail, sont beaucoup à l'écran, sont en train de monitorer les indicateurs clés de performance par rapport, bon, OK, ça, c'est en train de se faire. Puis pratiquement à chaque station, qu'il y avait un membre d'équipe qui travaillait sur une composante dans le processus de fabrication électronique, il y avait un bras de robot qui faisait une tâche répétitive. À valeur non ajoutée pour un humain. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant que ça, c'est inné là-bas. Là. Mm-hmm. T'as un bras de robot qui vient aider l'humain à faire des choses qui sont complètement répétitives, à aucune valeur. Puis t'as l'humain après à côté qui, lui, il gère tout simplement sa station, puis il fait des tâches vraiment plus évolutives par rapport à la fabrication en soi.
Exact.
De la place, fait que ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant à marcher là.
Ouais, c'est la collaboration humain-robot de plus en plus. Ça va être présent, puis ouais. Là, en ce moment, on parle dans le secteur manufacturier, puis de plus en plus, ça va être dans nos vies quotidiennes. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est presque une ville, Phoenix Contact. Ouais. En fait, si on met un pas en arrière, je pense que l'entreprise, elle a été fondée dans les années 1920, puis c'était juste à la gare, je crois, de Berlin, qu'il y avait le premier bureau de Phoenix Contact. Puis à cause de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des bombes, l'usine, elle avait explosé, donc c'est pour ça qu'ils étaient allés au milieu de nulle part, ils ont dit « prochaine fois, on va le faire ou qu'on se fera jamais bombarder ». Donc, ils ont vraiment conçu l'usine, le « headquarters ». T'sais, si je fais une allusion au Québec, là, je veux pas être chien contre une région, là, mais ça serait peut-être... on va y aller avec quoi?
Je sais pas, je te laisse aller là-dessus.
Non, pas le Témiscamingue, j'ai ma belle famille qui vient de là, mais on va dire Chibougamo, dans le coin de Sept-Îles peut-être.
Ça, OK.
Le Grand Nord. Ouais. C'est comme si tu allais dans le Grand Nord, tu dis, regarde, il n'y a jamais personne qui va aller bombarder là-bas. Ouais. Puis ils ont littéralement tellement grossi que c'est devenu une ville, c'est rendu énorme.
Ouais,
là,
c'est une ville au top un peu d'une colline aussi. Là, fait qu'ils sont comme, c'est assez impressionnant. Ça a été une belle visite. Puis je trouve ça intéressant. Je fais du pouce aussi un peu sur... encore une fois, je reviens un peu sur notre expertise chez Lacoste et tout par rapport aux opérations de revenus. Parce que j'ai trouvé, moi, à Hanover Messe, personnellement, qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis c'est peut-être normal, tu sais, la thématique, c'est chaîne de production, chaîne d'approvisionnement. On parlait de l'environnement durable et tout. Donc, c'est sûr que générer plus de revenus ou améliorer les opérations de revenus, tu sais, c'est pas nécessairement la thématique première dans cette industrie-là, puis du moins pas au show. Mais je trouve quand même que c'est interrelié, juste avec l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, puis j'ai trouvé quand même qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et on ne mentionnait pas tant que ça. Puis je vais les citer, tu sais, le kiosque de Microsoft qui parle un peu de la numérisation des ventes puis de l'automatisation au niveau des processus d'achat reliés aux opérations. Puis il mentionne, mais il ne l'explique pas puis il ne le dévoile pas. Puis pas juste eux, après on pourrait mentionner SAP, on pourrait mentionner les gros de ce monde. Puis bref, je reviens ici avec la notion de, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire d'un point de vue sensibilisation, de aligner vraiment tous nos départements, toutes nos opérations ensemble dans le but d'aller chercher la meilleure donnée, dans le but de sensibiliser les gens, dans le but d'améliorer tous nos indicateurs clés de performance reliés à l'environnement durable, reliés aux revenus. Puis je reviens à un mot clé quand même qui est bon dans tous les départements d'une entreprise, c'est faire plus avec moins. Pas juste avec la pénurie de main d'œuvre, mais avec tous les enjeux qu'on pourrait avoir, géopolitiques, tous les enjeux qu'on ne contrôle pas, de faire plus avec moins, puis d'être pratiquement un peu autosuffisant, d'avoir notre propre donnée, d'avoir des systèmes en place, d'être structuré, puis d'être fluide d'un point de vue opérationnel. Je pense que c'est extrêmement important. Puis moi, de mon ressenti là-bas, on le mentionne pas tant que ça. On le mentionne peu ou pas du tout, en fait, ce côté-là. Je sais pas si de ton côté, t'as de quoi ajouter par rapport à ça, là, plus ou moins, mais... Ben, les opérations de revenus, toi, comment tu vois ça à Inovermes par rapport à toute la fluidité des opérations
ben,
de revenus?
C'est sûr que, tu sais, on avait parcouru le show ensemble pour aller voir, tu sais, les joueurs qui étaient plus dans le CRM, l'automatisation des processus de vente, puis les revenus, ouais. c'est vrai qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Même on a été surpris là, des joueurs qui étaient là-bas, surtout l'absence des joueurs qui étaient là. C'est sûr que d'un point de vue expérience de consommation, comme on a dit tantôt, Inovermes, c'est vraiment une expérience particulière. Avec toute la dimension spectaculaire des kiosques, puis des conférences, puis de l'information qui est très, très overloadée, si je pourrais dire. Mais au niveau de l'optimisation du RevOps, on n'a pas vu grand partenaire là-bas. Là.
Fait que, je reviens à, en effet, je pense qu'il y a, il y a de quoi à faire. Je pense que c'est pas à négliger parce que tout est interconnecté. Puis je l'ai mentionné tout à l'heure, si on veut, on veut maximiser notre chaîne de production, si on veut fluidifier tout simplement les opérations au complet d'une entreprise, ben c'est du lead to cash au complet, puis plus que ça même. Donc c'est vraiment, vraiment important, de, je pense, d'avoir cette notion-là. Il y a encore beaucoup à faire. Mais en effet, ça reste quand même, je reviens là, sur mes mots, ça revient que c'est quand même un show pratiquement. Inovermes, c'est un show sur le manufacturier,
exact,
la production, le supply chain, donc c'est tout à fait normal, mais la notion devrait être là parce que c'est une entreprise, c'est toutes les opérations, puis c'est l'alignement de tous les départements ensemble qui va aller chercher la meilleure donnée, puis le véhiculer ou finalement à l'acheteur, au consommateur, etc. T'sais.
Bon point. Tu devrais, en fait, moi, je pense à une idée, tu devrais être là avec Lacoste.
Je pense que...
Il y a de la place. Il y a de la place pour vous, pour vos services, certainement.
Parlons-en. Si on termine là-dessus, Thierry, d'un point de vue, avant que je te pose la dernière question, mais avec la délégation québécoise, encore une fois, on les a remerciés et tout. L'année prochaine, c'est un rendez-vous. On compte y participer.
Certainement.
Probablement en tant que visiteur, oui, encore. Ouais. Mais ça nous amène en 2025.
Oui, en 2025, en fait, chaque année, il y a un pays hôte, comme aux Jeux olympiques, puis cette année, c'était l'Indonésie, donc il y a une cérémonie d'ouverture, c'est extrêmement protocolaire, le chancelier d'Allemagne était là, écoute, c'est vraiment, puis même le président indonésien, il était là, donc c'est extrêmement protocolaire et impressionnant. 2025, c'est le Canada qui va être le pays hôte, donc en Allemagne, on va avoir un gros boot et la vision du Canada pour 2025, c'est d'avoir dans chaque pavillon un boot du Canada. Puis c'est important de préciser, on l'a pas mentionné plus tôt, chaque pavillon, il y a une thématique. Donc il y a une thématique plus hardware, donc il y a une thématique qui est plus au niveau des essieux, t'sais, plus les pièces, les tuyaux, les gaskets, ces choses-là. Tu as une autre section, c'est la technologie, l'autre, c'est plus les robots. Donc dans chaque pavillon, il va y avoir un pavillon du Canada. Puis si jamais vous êtes une entreprise québécoise qui est intéressée d'aller essayer Inovermes, je pense qu'un bon plan de match, c'est d'aller le marché l'an prochain avec la délégation québécoise et potentiellement aller exposer en 2025 parce qu'il va y avoir un très gros contingent d'entreprises canadiennes. Puis il y a des entreprises canadiennes, très québécoises, super inspirantes qui ont exposé cette année. Si je pense à Prévu 3D, VKS,
Lazerax
ouais. également, c'est très impressionnant. La percée qu'ils ont également là, dans le marché automobile. Tesla, c'est leur client actuellement. Ouais. Puis ils ont une très belle croissance. Donc, Inovermes 2024, certainement y participer, 2025 aussi. Peut-être un jour, on va y participer en tant qu'exposant, mais...
On y pense. Peut-être 2025, ça pourrait être intéressant. Je te lance la balle,
certainement.
Thierry. Je finis sur une petite question, juste on finit là-dessus en quelques phrases. Prochaines étapes pour OZDA, qu'est-ce qui est sur la trame, où est-ce que vous en allez? Y a-t-il quelque chose en développement? Sans dire un scoop. C'est quoi? Où est-ce qu'on s'en va?
Ben en fait, aux aidants en ce moment, on commence à avoir beaucoup de traction avec le RoboSpot. Ça fait un an et demi qu'on est partenaire de solutions puis qu'on développe dessus. Puis là, on commence à avoir des projets concrets. On en a avec le métro de Montréal. On en a aussi une avec une aluminerie dans le nord du Québec avec d'autres partenaires en Beauce. Et je pense que à travers les prochains mois, on va avoir une plus grosse équipe, puis on va déployer plus de robots au Québec concrètement. Également, on continue notre expansion en Europe, en France et à Londres. Donc, on commence à avoir du beau momentum là-bas. Donc, habituellement, les entreprises québécoises ont plus une tendance à aller dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis. Mais nous, avec... qu'est-ce qui nous distingue surtout aux EDA, c'est l'environnement de travail puis notre culture d'entreprise qui est axée sur la diversité, l'inclusivité, les programmes parentaux. Puis ça, c'est quelque chose qu'en Europe, ils ont beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qui nous réserve l'avenir à court terme? Plus de projets concrets avec Spot, une expansion en Europe plus rapide, puis du plaisir. Je pense qu'on a vraiment du fun au final à faire ce qu'on fait. À notre mission d'entreprise, c'est rendre notre monde plus agréable avec la technologie, plus efficace et agréable. Puis, c'est ça l'objectif. Là.
Très cher, très cher. Mais écoute, bon succès, bonne continuité. Nous autres, c'est sûr et certain qu'on va se revoir très prochainement autour peut-être d'une bonne bière, autour d'un bel événement aussi que vous organisez très prochainement aussi. Thierry, un gros merci. Ça a été un plaisir de marcher ce show-là extraordinaire avec toi puis d'avoir vécu cette expérience-là puis d'avoir ramené du beau stock puis du beau contenu pour nos manufacturiers innovants québécois. Donc, merci encore, Thierry.
Merci de l'invitation, puis j'espère que ça donne le goût d'aller à Overmass pour les prochaines éditions, puis si jamais vous y allez, au plaisir de serrer la pince et de prendre une petite bière ensemble.
Absolument. Merci à tous.